Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vous recherchez des nouvelles sources d'inspiration pour vivre votre vie créative? Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 626. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une liste de livres, 5 livres qui sont vraiment pour moi. Ah, j'allais dire incontournable. Oui, peut-être incontournable, mais en tout cas qu'on ne recommande pas si souvent que ça. Quand on parle de création, d'entrepreneuriat, de communication en ligne, etc. Et donc vraiment, ce sont des livres qui sont pour moi, qui changent un petit peu l'état d'esprit. Vous savez que c'est un élément qui est important pour moi. Ça fait des années que je crée du contenu. Hein. Ça fait depuis le siècle dernier que j'ai créé des sites, que je crée du contenu. J'ai été longtemps salarié. Je suis maintenant indépendant depuis plus de 10 ans. J'accompagne des entrepreneurs, des créateurs, hein, pour développer du contenu. Et en fait, je me rends compte souvent que on a une mauvaise vision de la création de contenu, on a une mauvaise vision de la créativité, on s'en fait toute une montagne, et beaucoup de personnes, en fait, ne se rendent pas compte que finalement, créer du contenu, mais aussi se positionner en tant que créateur de contenu et en tant que influenceur, leader d'opinion, ou je ne sais pas comment on pourrait vraiment donner le terme exact, ben ce n'est pas si compliqué que ça, mais que c'est un état d'esprit, que c'est surtout une habitude. Et vous savez que je suis vraiment fervent de, bien sûr, du contenu minimum viable, mais aussi de l'action minimum viable, c'est-à-dire de prendre des habitudes créatives et d'être créatif un petit peu tous les jours, et pas forcément d'être créatif à 100%. De toute façon, on peut pas être que 100% créatif dans une journée. Si on est créatif 10 minutes par jour, à la fin de l'année, ça fait un gros, gros changement. Et c'est un petit peu ce que ces livres-là vont nous apporter. Je ne dirai jamais assez de l'importance des livres, hein. Franchement, on peut dire tout ce qu'on veut. On dit que l'entourage compte beaucoup, que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus, bien entendu, qu'il faut se créer un cercle proche de gens qui pensent comme nous, qui peuvent nous aider, nous encourager, bien entendu. Mais parfois, ce n'est pas si simple que ça. Par exemple, mon tempérament introverti, moi, il me pousse plus naturellement à rester à la maison que d'aller voir les autres, hein, que d'aller passer des coups de fil en permanence. Je déteste, par exemple, le téléphone. Je déteste passer un coup de fil, même pour prendre un rendez-vous à droite à gauche. Je déteste cette impression que j'ai de toujours déranger quelqu'un. Mon téléphone est toujours en silencieux de toute façon, donc vous pouvez quasiment pas m'appeler ou très rarement m'appeler. Sauf si, bien sûr, nous avons pris un rendez-vous, sauf si, bien sûr, vous avez besoin de coaching, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez un conseil, ou là, bien entendu, j'ouvre les vannes, j'ouvre les portes, bien entendu. Mais sinon, le reste du temps, mon téléphone, il est sur un mode silencieux, parce que moi, je suis aussi dans cette recherche de comment je vais trouver des idées, comment je vais les développer. Et j'ai besoin, un moment, d'être dans mon monde à moi. Voilà, c'est ça aussi. Et ce qui fait que je suis pas en contact tout le temps, chaque minute, je vais pas aller chercher le contact des autres. Donc, j'ai besoin aussi d'aller chercher des idées dans les livres, d'être au contact des autres par le biais des livres. Et voilà maintenant pourquoi j'arrive à vous faire cette liste-là. C'est que, en fait, quand je regarde un petit peu les listes de recommandations, quand je regarde un petit peu ce que j'ai lu, ce que j'aurais envie de lire, il y a plein de choses. Finalement, on se dit, ça se rabâche un petit peu toujours pareil. On retrouve un petit peu toujours les mêmes choses, les mêmes conseils, les mêmes idées. Vous savez, c'est un petit peu le problème avec la créativité actuellement, c'est que on prend des idées des autres et on les recopie sans y ajouter sa patte. Souvent, c'est ça. Et là, ce que je voudrais vous proposer, en fait, c'est une liste de lecture qui soit un petit peu différente, qui, pour moi, apporte une vision différente des choses. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Un dernier point que je voudrais vous donner pour parler des livres, c'est que je pense qu'on devrait tous avoir, quelque part, une liste de lecture avec les livres à lire, les livres en cours et les livres lus. Alors moi, je mets ça dans mon second cerveau. Mon second cerveau, d'ailleurs, vous l'avez en ligne. Hein, je vous l'ai mis en ligne, donc je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez en avoir une partie. Alors, il n'y a pas tous les livres, il n'y a pas toutes les notes, il n'y a pas toutes les notes sur les livres, etc. Il y a certains éléments, il y a des choses qui ne sont pas encore publiées dessus, hein. J'ai mis des parties qui sont publiques. Dites-vous juste que l'adresse est facile, c'est note.bertrandsoulier.com, tout attaché, Bertrand Soulier, vous allez tomber dessus. Il y a pas mal d'idées, j'ai mis pas mal de choses, c'est mon Digital Garden, mon jardin numérique en ligne, dans lequel je mets beaucoup d'idées, et dedans, notamment, je vais un petit peu améliorer cette histoire de liste de livres que je suis en train de lire, etc. Parce que le principe, c'est que pour chaque livre que je lis, je commence à faire une fiche dans laquelle je marque quelques idées, je surligne des passages, etc. Et donc certains des livres dont je vais vous citer ne sont pas présents, certains sont présents. Et je dois vous dire un dernier mot, c'est que cette liste ne contient aucun livre de Seth Godin et Austin Kleon, mais vous le savez, je vous les recommande déjà, qui sont pour moi deux éléments, deux papes de la créativité. On pourrait rajouter aussi l'ami Gary Vaynerchuk. Je dis l'ami parce que pour moi, ils font partie de mon conseil des sages. Pour moi, ce sont des amis. Vous voyez, Seth Godin, je le lis un petit peu tous les jours. Austin Kleon, je regarde tous les jours ce qu'il fait. Et là, Gary Vaynerchuk sort un livre aussi dans pas longtemps et j'attends de voir un petit peu ce qu'il va raconter. Ce sont des personnages qui, pour moi, sont aussi des manières de créer sa vie à leur manière. Seth Godin, Austin Kleon et Gary Vaynerchuk ne le font pas de la même manière, mais tous les trois créent aussi leur vie petit à petit, notamment à travers la passion pour des sujets, à travers le manière de creuser les choses, d'aller au fond des choses, etc., et de s'exprimer dessus. Et donc je les ai pas mis dedans parce que je voulais avoir aussi notre vision. Ils sont très connus ceux-là. Je voulais vous apporter notre vision. Bon, le premier livre il est très connu. Hein, soyons clairs, celui-ci c'est vraiment un gros best-seller. C'est Comme par magie de Elizabeth Gilbert. Alors Elizabeth Gilbert, vous la connaissez probablement par une autre de ses créations, c'est le livre Mange, Prie, Aime, qui est un livre un peu, je crois, largement autobiographique d'ailleurs, qui a été joué au cinéma par Julia Roberts. Je me dis qu'on est auteur et qu'on a Julia Roberts qui nous incarne, ça doit quand même être une sacrée surprise. Et en fait, elle apporte un point de vue sur la créativité, sur ce travail créatif. Elle montre qu'elle n'a pas toujours été auteur d'ailleurs, elle sait pas, mais elle montre à quel point elle voulait y croire à cette histoire-là, en commençant par écrire des nouvelles, comment elle a poussé un petit peu les choses, comment elle a affronté les difficultés, comment elle a pas réussi du premier coup, comment elle a créé des choses différentes et variées, comment elle a fait des rencontres aussi. Elle nous montre dans ce livre comment capturer ce que nous aimons le plus et comment tenir tête en fait à ce qui nous fait peur. Et ça, vous allez voir, c'est un grand point commun de la plupart des livres. La peur, l'échec, la crainte, etc. On est vraiment là-dedans. J'ai vu l'autre jour quelqu'un qui me disait de toute façon, on a un cerveau pessimiste, on est paranoïaque, on a peur de tout, on a donc on est dans ce monde-là et en fait on se rend compte que la plupart des livres sur la créativité, sur la vie créative, sur développer une vie dans laquelle on va développer des projets, sont beaucoup centrés aussi à un moment donné où finissent par toujours nous amener sur cette notion de peur. Elle parle des attitudes, des habitudes dont nous avons besoin pour vivre notre vie de la façon la plus créative qui soit, que ce soit écrire, peindre, jouer de la musique ou quoi que ce soit. Elle montre que c'est pas toujours facile, qu'il faut une certaine discipline aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Et surtout, elle nous encourage à aller à la recherche de notre inspiration et vivre notre vie créative. Et le titre, la vie créative de podcast, il a changé. Mais en fait, c'est en grande partie à cause d'Elizabeth Gilbert et de ce livre qui m'a vraiment... il se lit très très vite, vraiment très 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 bien écrit. On comprend le succès qu'elle a, vraiment très bien écrit. Et c'est vraiment un livre que je vous recommande tout particulièrement, mais comme le deuxième, qui est Le Petit Livre de l'Ikigai. Alors, Le Petit Livre de l'Ikigai est peut-être moins connu, c'est Ken Moji, qui est un neuroscientifique et auteur à succès japonais. Pour l'histoire, c'est que j'ai beaucoup cherché comment trouver mon Ikigai. Si vous me soutenez sur Patreon, vous savez, dans mon podcast privé sur Patreon, donc vous faites patreon.com/Bertrand Soulier, que cherche cet Ikigai. Donc ce que je raconte, parce que dans Patreon, il y a le podcast privé tous les lundis, et ce que je disais beaucoup, c'est que je cherchais vraiment mon alignement, comment être, savoir ce que je faisais vraiment, ce que je cherchais, comment j'allais, où j'allais, dans quelle étagère, comme on dit. Et j'ai beaucoup de mal à le trouver, parce que finalement, il y a plein de choses qui me plaisent, il y a plein de choses qui étaient autour de moi qui m'intéressaient. Il y a un autre livre que je vais vous recommander après qui parle de ça. Mais en fait, cet alignement précis de l'ikigai, vous savez, c'est ce qui donne une raison de se lever le matin, entre ce qui me plaît, ce pourquoi il y a des gens qui sont prêts à payer, ce qui me permet de gagner de l'argent, ce qui me permet de me nourrir, etc. Vous savez, ces notions-là, c'est souvent représenté par une fleur, etc. Et je dois vous dire qu'en fait, cette fleur-là, vous la trouvez pas dans le livre de Ken Moji. Vous trouvez pas ces notions-là dans le livre de Ken Moji. Et en fait, il existe des méthodes en pagaille, des formations, des livres. J'en ai acheté plusieurs, j'ai pas mal de livres. Il y a des livres que je n'ai même pas réussi à passer les 3-4 premières pages, finalement, parce que il y a des exercices et des choses comme ça, puis j'arrivais pas à voir où ça voulait m'amener. Donc j'ai pas trouvé ce que je cherchais dans pas mal de choses. Et en fait, lui, Ken Moji, il apporte une autre vision. Alors, bien sûr, il va décevoir ceux qui cherchent une méthode pas à pas pour trouver son Ikigai. Non, celui-là, vous la trouverez pas. La méthode en 10 étapes pour trouver votre Ikigai, vous la trouverez pas. En fait, Ken Moji, ce qu'il fait, c'est qu'il apporte, lui, une autre vision. Ce livre, c'est pas la méthode, mais c'est finalement le rappel de ce qu'est l'Ikigai et comment finalement l'ikigai il est présent partout dans la culture japonaise, comment il est au cœur de la vie japonaise et comment finalement il s'impose à tout le monde et comment il s'impose à autant, il montre à un marchand de poissons et puis il arrive à faire un lien qui est assez très intéressant parce qu'il fait le lien entre le marchand de poissons et le maître sushi qui ont leur ikigai, qui ont une manière différente de le vivre mais qui finalement sont dans la même recherche. Ça peut paraître paradoxal finalement que la personne, bien sûr, l'image du maître sushi, c'est qu'on se dit oui, il est dans sa recherche de goût, de parfum, d'odeur, de la structure physique de tout ce qu'il fait, etc. Et en fait, on se rend pas compte aussi que il est dans la recherche du produit parfait qui va aller pour faire son sushi, et que la recherche du produit parfait, il n'y a pas que lui, il y a aussi le marchand de poisson qui va lui proposer le poisson idéal aussi pour lui et qui a fait un vrai sacerdoce finalement de trouver ça pour ses clients, etc. Et qui en trouvant ça pour ses clients finalement a créé sa vie, a créé une entreprise autour de ça et très renommée, etc. par rapport à des chefs. Et puis il nous montre aussi comment c'est tellement dans la culture japonaise avec des éléments de culture sur des bols, des tout un tas de choses et autres. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'ikigai, il montre comment il faut commencer petit, comment il faut se libérer aussi de certaines pressions qu'on peut se mettre sur des choses, comment il faut être dans le ici, comment il faut être ici maintenant, vous voyez, on parle beaucoup de méditation, de toutes ces choses-là, mais en fait, il les applique pas non plus dans une forme de méditation, il vous met pas des méthodes de méditation pour arriver à trouver votre ikigai. En fait, il explique comment tous les jours, en faisant quelque chose, hein, on est vraiment dans l'action de faire des choses. Alors, bien sûr, lui, après, il le voit avec... il y a un truc, c'est se lever tôt le matin, par exemple, travailler dessus dès le matin, vraiment à la manière, bien sûr, à la manière japonaise. Alors, certains vont être un petit peu rebutés, parce qu'on va dire, oui, mais c'est pas applicable à moi, ou quoi que ce soit. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est que, vraiment, il est sur l'idée, la philosophie, l'idée, l'esprit, pour bien comprendre. Et en fait, ce livre m'a tranquillisé. Moi qui cherchais l'ikigai en me disant, je suis pas aligné, je sais pas ce que je veux faire vraiment, là, etc. La paternité m'a vraiment beaucoup bougé sur ces domaines-là et autres. Et puis, les échecs aussi, le fait que, j'imaginais qu'en vendant une formation, par exemple, un jour, je vais aller me retrouver, en la mettant en ligne, je me retrouvais avec 100 ventes dans les heures qui viennent et puis que ça m'assurait mon chiffre d'affaires pour plusieurs mois, etc., toutes ces claques, en me disant, finalement, est-ce que je fais vraiment ce que je devrais faire? Une des questions que je me suis beaucoup posé là-dessus. Je me suis rendu compte, en fait, que je cherchais quelque chose que j'avais déjà trouvé. Et c'était paradoxal. Mais ce livre m'a révélé ça, et c'est pour ça que je vous le recommande aussi. C'est que finalement, la recherche de l'ikigai, telle qu'elle est présentée dans le monde occidental, et marketée sur le plan très américain, très français, très européen, ne correspond probablement pas à ce qu'est vraiment l'ikigai dans certains parties, et que en fait vous rendrez peut-être compte que vous l'avez déjà votre ikigai, ou en tout cas que vous êtes peut-être déjà aligné avec des choses, ou qu'en osant pousser certaines portes, certaines barrières, vous l'avez déjà, et que en fait ça demande juste à se concrétiser. Mon troisième livre que je vous recommande, c'est Superfan. Alors Superfan, c'est Pat Flynn. Alors Pat Flynn, je sais pas s'il faut vraiment le présenter encore, infopreneur, formateur, entrepreneur très connu aux États-Unis. Vous avez peut-être déjà vu ce qu'il fait sur les formations autour du podcast, sur les formations. Il a fait beaucoup de podcasts. Il a commencé au départ, en fait, il devait être architecte, et sa vie d'infopreneur a bousculé le jour où en fait il a écrit une méthode sur comment réussir le concours pour devenir architecte qui est très compliqué, qui est pour être vraiment avoir le droit d'être architecte. Et donc il y a plein de gens qui lui ont acheté ça, en fait, mais c'est un infopreneur depuis très longtemps, mais il a une approche différente, en fait, et il est concentré sur la communauté. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a des podcasts, par exemple, vous savez, mes questions, le Ask Bertrand, les questions que vous pouvez me poser vient de son podcast Ask Flynn aussi, là, c'est un petit clin d'œil à lui, où il a des podcasts où il ne fait que répondre à des questions des gens qu'on lui pose directement. Il fait que ça, en fait, c'est-à-dire qu'il avait un podcast quotidien, tous les jours, en 10-15 minutes, il faisait ça, soit la personne l'appelait, soit il lisait les messages, etc., mais il avait des podcasts, il a fait des centaines d'épisodes que là-dessus, que sur finalement le développement d'une communauté très proche avec les gens autour de lui. Il a d'ailleurs créé des communautés, hein, il en a sur des outils privés que vous trouvez. Alors bien sûr, il y a des bouts de communautés sur des Facebook, etc., mais il y a aussi des communautés privées, des communautés en accès gratuit, payant, enfin il y a plein de choses et tout comme ça. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans sa logique, c'est qu'il nous sort la logique des gros chiffres des marketeurs américains. Vous savez, les marketeurs américains, l'automatisation, les trucs à 7 chiffres, faut faire absolument tant de chiffres, faut faire ça, faut pas d'un zéro, faut des automatisations, faut faire de la pub à gogo, etc. Il nous sort de ça, en fait, C'est vraiment intéressant parce que il montre que on peut faire un chiffre d'affaires confortable, intéressant. Il le montre avec des exemples, avec des gens qu'il a aidé en fait, qui ont écouté son podcast, qui ont écouté ses formations, qu'il a aidé. Il va les retrouver, les interviews. Certains montrent un peu. Il montre en fait comment finalement autour de lui, il a créé une communauté de gens qui veulent tout simplement développer des choses et comment lui-même l'a fait et comment d'autres gens le font dans d'autres domaines. Par exemple, il y a des profs qui ont changé de vie, mais vraiment de manière spectaculaire et vraiment sans inventer un produit, sans investir de l'argent ou quoi que ce soit, en créant petit à petit du contenu, en étant proche de leur communauté, en créant une communauté autour d'eux et petit à petit en le développant. Et en fait, il y a une phrase qui est vraiment intéressante, il dit « Vous n'avez pas besoin de changer le monde entier pour créer une entreprise prospère, vous devez simplement changer le monde de quelqu'un ». Et ça, c'est vraiment sa notion. Alors, bien sûr, il faut plus que quelqu'un qu'une personne. Il faut quelques personnes, j'ai envie de dire. Mais on a la continuité de tribu de Seth Godin. Tiens, j'ai dit, je parlais pas de Seth Godin, mais quand même, tribu de Seth Godin que j'ai replacé là sur mon bureau pour le refeuilleter, pour relire, pour reprendre des éléments qui me semblent vraiment importants parce que la communauté, c'est vraiment quelque chose qui me travaille beaucoup. Et vous savez que, notamment, la communauté, c'est, par exemple, autour du Kilomètre 42, c'est le Hamster Zoning Club, qui est une communauté autour de la course à pied, du sport, mais pas que. Et puis, il y a l'aspect communautaire, je veux développer autour de la vie créative, justement, pour nous aider à développer notre vie créative. Et vous savez, ça revient un petit peu sur cette histoire des introvertis, etc., où parfois, on n'est pas les plus à l'aise pour aller dans des repas, dans des soirées, des choses comme ça. On n'est pas le plus à l'aise pour aller passer des coups de fil. Mais par contre, faire un zoom de temps en temps, avoir des gens avec qui échanger, partager des conseils, etc. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et je voudrais vous apporter ça, en fait. Si vous avez acheté mes formations, c'est quelque chose qui va se rajouter. En fait, c'est une couche que je vais rajouter par-dessus. J'avais essayé de faire ça par le Munchu à une époque et maintenant techniquement, ça marchait pas très bien et autres. Et donc, je vais refaire une nouvelle version qui va sortir là, dans très peu de temps avec la future formation qui va arriver. Les deux futures formations qui vont arriver vont être vraiment basées sur cette notion-là aussi de finalement, c'est vrai, tout seul on peut peut-être avancer plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et comment on peut s'entraider, comment on peut partager des choses ensemble, etc. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Et donc Pat Flynn il est vraiment dans cette logique-là. Et on va dire aussi que c'est un petit peu la continuité de la théorie des 1000 vrais fans en fait, qu'il cite hein, d'ailleurs. Mais y a un truc qui est vrai aussi, c'est qu'on n'a peut-être pas vraiment besoin de 1000 vrais fans. Peut-être que si vous en avez que 100, ça peut suffire. Et d'ailleurs c'est ce qu'il explique, mais c'est ce qu'on constate un petit peu à droite à gauche. En fait, ça dépend. Les 1000 vrais fans étaient pris dans le cadre de la musique. C'est-à-dire que si vous êtes musicien et que vendez des disques, des choses comme ça, des concerts, peut-être qu'il faut 1000 personnes. Mais il y a peut-être des gens qui ont besoin que de 100 personnes qui vont donner plus. Hein. Si ces 1000 vrais fans vous donnent 100 euros, si vous avez 100 fans qui vous donnent 1000 euros, ça revient exactement au même, j'ai envie de dire. Donc on est vraiment un petit peu dans cette logique-là. Et je trouve que le livre de Pat Flynn, que j'avais lu, pour vous dire, il est sorti pas cet été, mais l'été d'avant. Je l'avais téléchargé en numérique comme ça. Je sais pas si on trouve en version papier. Il est pas traduit. Hein. Celui-ci, c'est le seul que vous trouvez qu'en anglais. Les autres, vous les trouvez tous en français, mais celui-ci, vous trouvez qu'en anglais. Il est vraiment, il se lit très vite et il donne des idées un peu. Pratiquement toutes les pages, il donne de nouvelles idées. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que tous les livres que je vous redonne, là, c'est des livres dans lesquels je me replonge de temps en temps, que je regarde à nouveau. Et vraiment celui-ci, dans lequel il faut vous plonger. Le quatrième livre, c'est un livre qui s'appelle Se réaliser. Et Se réaliser, d'ailleurs, je l'ai sur mon bureau, vous voyez, j'en ai déjà parlé, je crois. Le sous-titre, c'est Comment concilier travail et passion. Et il a été écrit par Gavin Strange. Alors, Gavin Strange, peut-être vous connaissez pas, il est dans une collection de livres qui s'appelle Do Books, dont on a parlé dans un épisode avec Pierre Dron, sur son livre Remarquable. Alors Remarquable, j'aurais pu mettre dedans, mais j'ai parlé du livre il y a pas longtemps, et je l'ai fini il y a en quelques jours aussi, vraiment un livre remarquable, c'est le cas de le dire. Et la collection Do Books, en fait, j'aurais pu mettre un autre livre de David Ayat, Donner du sens, sur les marques engagées, qui ont plus de succès, etc. Mais en fait, je préfère que me concentrer sur ce livre-là, Se réaliser, qui est traduit en français. Gavin Strange, en fait, c'est un auteur. Enfin, c'est pas qu'un auteur. En fait, il a un parcours insolite. Il a pas fait d'université et tout, mais pourtant, il est graphiste chez Hardman. Il est même directeur. Et Hardman Animation, vous savez, c'est Wallace et Gromit, mais c'est aussi plein de séries. Par exemple, sur Netflix, il y a des séries que ma fille aime bien regarder, genre les Peppa Pig et compagnie. Là, vous savez, ce truc-là. Et ben, c'est eux. C'est eux. Il y a des trucs comme ça, notamment. Alors, je sais plus lesquels exactement vous avez, mais enfin, il y en a plein. Et un jour, en regardant un petit peu les génériques, je m'étais rendu compte, il y a des trucs que j'adore. Notamment sur Netflix, vous savez, il y a Hardman, ils ont créé une série avec les comment ça s'appelle là, le mouton, Sean le mouton, des choses comme ça. Et ben c'est lui qui a travaillé dessus. Il fait partie des équipes qui travaillent dessus, etc. Bon, bref, voilà, ça c'est pour le passage. Donc ça c'est le travail de jour, j'ai envie de dire. Et la nuit, il officie sous un nom qui s'appelle Jam Factory. Et il a un site et tout. Je vous mettrai bien sûr tous les liens sur mon sur le site. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que il est dans cette recherche de dire il y a le ce qui comment être travaillé, ça doit pas être un, ça doit être un plaisir et pas un fardeau, et comment finalement on peut le créer ça. En fait, il montre son parcours que il aurait pu faire plein de choses, il y a plein de choses dans son parcours, il y a eu plein de changements, etc., et que il est vraiment dans une démarche créative, mais il crée dans tous les sens, de la 3D, du dessin, de la musique, il écrit, donc il fait plein de choses, il fait des lives sur Twitch, il fait plein vraiment beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est très créatif, et en fait avec ce livre vous allez découvrir un terme que moi je ne connaissais pas du tout avant. C'est le polymathe. Et le polymathe, c'est une personne qui possède une connaissance approfondie dans plusieurs domaines. Et un polymathe très connu qu'il donne, ben, par exemple, c'est Léonard de Vinci. Mais il en donne d'autres, des moins connus. Vraiment, c'est un livre qui va vous encourager à développer des projets personnels ambitieux. Et quand il dit ambition, en fait, ça veut pas dire de tout lâcher, c'est dire de les faire. Par exemple, le soir, à côté, de faire des liens entre ce qu'on fait la journée, entre différents projets, ne pas se cantonner finalement, se dire je dois faire qu'une seule chose, mais je peux faire plusieurs choses. Et il est vraiment sur développer des idées et faire des choses. Il est vraiment dans cette logique-là, développer des idées, faire des choses, développer des idées, faire des choses. Lui aussi il parle bien sûr de la crainte, de la peur. Il parle de, il y a plein de choses de ces notions-là, mais il le fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle d'équilibre, il parle de l'impact qu'on peut avoir. Il revient aussi sur cette histoire d'être un mentor aussi pour les autres, hein, la position qu'on peut avoir, position aussi qu'on peut avoir de facilitateur, qu'on peut avoir dans certaines choses. Vraiment sur beaucoup de notions comme ça, avec des petits chapitres qui se lisent très vite. Ça livre en plus qui est un peu graphique. Il y a des grandes pages avec des citations. Vous allez avoir du Sénèque, par exemple, qui est cité. Il y a son parcours, il y a comment il s'est il a fait divers métiers, mais en fait comment il arrive petit à petit en fait à construire des choses qui sont vraiment très intéressantes. Vraiment je vous garantis, quand vous aurez terminé ce livre, vous aurez envie de faire des choses. En plus, il a un avantage, c'est que c'est un petit livre qui est pas très épais, qui est vendu 10 €. Vous le trouvez en version, je sais pas si on trouve une version numérique, mais je vous recommande la version papier dans tous les cas. La plupart du temps, les livres de chez DoBooks, vous pouvez les acheter en ligne, en anglais, c'est sûr qu'ils sont en version numérique. Vous pouvez les acheter directement en ligne. En plus, ils sont même pas de DRM et tout, donc c'est super cool pour ça. Mais en version papier, en fait, ils sont chez Pyramide. Et vous savez, Pyramide, c'est un éditeur créatif. Ils ont, rien que la couverture, déjà, vous donne envie de les caresser. Voilà, oui, caressez vos livres, vous allez voir, ils vont vous parler et tout. Bon, bref, c'était un petit aparté comme ça, mais je sais aussi pourquoi. Il y a certains livres, il vaut mieux les acheter en papier, d'autres livres, il vaut mieux les acheter, vous pouvez garder en numérique. En tout cas, je trouve que moi, les livres de chez Pyramide, chez les Doux, et notamment les Doux Books, pour avoir les deux formats, avoir des numériques et des papiers, j'aime bien la version papier, parce qu'elles sont souvent avec des éléments graphiques, elles sont souvent des dessins. Le livre de David Ayat, Donner du sens, c'est ne l'achetez pas en numérique, gardez-le et lisez vraiment en papier par exemple. Et puis le cinquième livre que je voudrais vous recommander, c'est pour réussir oser échouer. Voilà, j'arrive pas à le dire, mais pourtant c'est vraiment un livre qui est vraiment très intéressant. Là vraiment, Michel Poulert, c'est comment vous dire. Je l'avais vu passer, j'ai toujours un doute, vous savez, sur ces bouquins-là, qui, on dit, ouais, il va célébrer l'échec, etc. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. C'est, il explique déjà son parcours, comment, lui, il est conférencier professionnel en bonheur. Il explique que ça n'a pas toujours été facile, il montre un peu comment il a été. Il montre d'ailleurs qu'il était fortement impacté, notamment aussi par le Covid, comment il a rebondi en montant un studio, en faisant du live tous les soirs, enfin tout un tas de choses comme ça. Mais en fait, il explique comment il est devenu ce conférencier professionnel en bonheur, ce qui n'était pas son point de départ, vraiment ce qu'il a voulu faire. Et en fait, c'est surtout un livre qui incite à l'action, en montrant pourquoi nous avons peur de l'échec et comment nous devons changer notre perception de l'échec. En acceptant qu'il puisse y avoir de l'échec, qu'on atteint la réussite, tout simplement parce que Si on est dans cette peur de l'échec, on est paralysé. Et donc, à un moment donné, il faut se dire que oui, on peut échouer sur un projet, il y a un truc qui peut ne pas marcher, etc. Que la plupart du temps, d'ailleurs, ça n'a pas vraiment un impact qui est très important, surtout quand on est dans nos métiers. Par exemple, si vous lancez un podcast là aujourd'hui, là, vous lancez un podcast, de quoi avez-vous peur? Vous avez peur de quoi, en fait? Si vous avez votre travail à côté, si vous avez de quoi payer vos factures, si vous avez de quoi manger, si vous êtes confortable, j'ai envie de dire, même dans votre vie, etc. De quoi vous avez peur de lancer une chaîne YouTube? De quoi vous avez peur de lancer un podcast, de même vous lancer dans l'écriture d'un livre ou je ne sais pas quoi? Vous avez peur de rien, j'ai envie de dire. Et vous craignez rien. Vous craignez quoi? Vous craignez qu'il y ait l'autre jour, je vais vous dire un truc, hein, sur TikTok, j'ai mis une vidéo, je mets quelques vidéos sur TikTok. Il y a un gars qui vient se foutre de ma gueule. Un petit jeune qui vient se foutre de ma gueule. Et alors, je l'ai remercié, j'ai dit, bah, merci d'avoir pris le temps de regarder ce que je fais. Il a pris le temps de mettre un commentaire, il a pris le temps de booster ma visibilité de ma vidéo en mettant un commentaire, en montrant que finalement il y avait de la visibilité dessus. Voilà. Et alors, je sais pas qui c'est, il m'a pas détruit, il m'a pas changé ma vie, etc. C'est pas grave. Tout à l'heure, je vous disais que, au départ, quand je vendais mes formations, quand j'ai vendu ma première formation, ma méthode de 30 jours, là, j'avais été, j'aurais dû appeler la méthode de 30 jours d'ailleurs, si j'avais été plus malin, j'étais déçu par les résultats, je pensais en vendre plus rapidement, etc., par rapport à l'audience qu'il y avait. C'est-à-dire que quand il y a des centaines de personnes qui écoutent tous les matins un podcast et que vous vendez quelque chose et qu'à côté, vous avez pas grand monde qui achète, vous dites, bon, là, je me suis planté, c'est un échec, c'est catastrophique, je le ferai plus jamais, etc. Et en fait, c'est de cet échec-là m'a permis de construire d'autres choses, m'a pris d'apprendre d'autres choses. J'avais fait un épisode, hein, je vous rappelais, est-ce que finalement, comment est-ce qu'on mesure l'échec de notre podcast? Est-ce que, par exemple, la vie créative serait, votre coach-chose serait un échec? C'est quelque chose, c'est une question que je me suis vraiment posée, je me pose souvent cette question-là. Est-ce que par rapport au temps que j'ai mis, à l'investissement que j'ai mis dedans, est-ce que c'est un échec? Et on pourrait le dire, par certains aspects, certains, je pense, si on prenait des coachs, etc., dans leur logique purement mathématique, ils considéraient que ça peut être un échec. Et pourtant, je sais que ce que je fais à côté, ce que j'ai pu faire à côté, ce que je construis à côté, ce par quoi qui me fait gagner de l'argent, que ce soit les podcasts, soit le formation, le coaching, etc., ça serait pas possible s'il n'y a pas eu la partie la vie créative, votre coach web, si je m'étais pas lancé un jour à faire du podcast tous les jours, il y aurait pas eu les bouquins, vous seriez pas en train d'écouter, il y aurait pas eu de contacts, j'aurais pas rencontré certaines personnes, j'aurais pas construit d'autres choses, j'aurais pas eu d'autres idées, j'aurais pas eu osé faire des choses, et des choses que je vais oser faire là par exemple, qui seront un peu compliquées pour moi parce que je me dis ouais mais personne ne voudra de ça ou je sais pas quoi, et pourtant c'est parce que tous ces éléments là s'ajoutent les uns sur les autres, et en fait ce livre là quand vous le refermerez vous serez regonflé de, je vous dis pas de confiance en vous, il vous travaille pas sur votre confiance vraiment sur ce sens là il vous dit que en fait il faut oser, qu'il y a plein de gens autour de nous bien sûr qui ont osé, et on ne voit que leur succès mais on ne voit pas leurs échecs, hein. C'est toujours pareil en fait, c'est un iceberg cette histoire là, c'est à dire que quand vous regardez quelqu'un, que vous regardez le succès qu'il a pu avoir, que vous regardez tout ce qu'il a fait, vous regardez ce qui a réussi, on voit que ceux qui réussissent, on ne voit pas ceux qui sont dans l'échec, hein. C'est un petit peu, vous savez, la théorie aussi des avions qui reviennent, le biais qui est créé par ça, c'est à dire que pendant la guerre on cherchait à renforcer les avions, à savoir où est-ce qu'il fallait renforcer les avions pour éviter qu'ils quand ils se prennent des balles, quand ils allaient sur, je sais pas, bombarder à droite à gauche, on se demandait finalement comment on fait pour que les avions reviennent, et la question c'était plutôt de savoir finalement qu'est-ce qu'il fallait renforcer, est-ce qu'il fallait renforcer les faiblesses, les forces, qu'est-ce qu'il fallait renforcer sur l'avion, et qu'il y avait un biais finalement d'analyse dans tout ça. Et c'est un petit peu aussi ça, j'ai envie de dire, dans la création de contenu, c'est un petit peu ça aussi quand vous regardez les créateurs, les grands créateurs, c'est-à-dire que vous ne voyez que les réussites, et bien sûr que partout où vous voyez par exemple je pense à quelqu'un comme Major Mouvement. Major Mouvement, c'est un kiné qui a fait beaucoup de choses, etc., qui a une grosse visibilité, j'ai reçu dans Kiné 42 au début de l'année. Et bien sûr, quand vous regardez lui, vous regardez son succès, mais à côté de ça, combien il y a de personnes qui ont voulu faire du contenu, qui sont kinés, qui ont des compétences, etc., qui finalement n'arrivent pas, qui voudraient faire sur Instagram du contenu, etc., qui n'arrivent pas à décoller, etc. Et pourtant, si vous regardez si vous ne comparez qu'à Major Mouvement, finalement vous êtes découragé en vous disant oh là là, moi par rapport à lui je fais pas ça, je suis pas bon, etc. Et pour autant vous voyez pas tous ceux qui ont essayé, et tous ceux qui essayent, et tous ceux qui finalement n'ont pas la même visibilité mais qui réussissent quand même. Et c'est pour ça que ça fait un petit lien avec ce que je disais sur Pat Flynn, la théorie des 1000 fans, etc. C'est que finalement vous n'avez pas besoin d'avoir que d'être suivi par 200 000, 300 000, 400 000 personnes pour réussir. pour avoir une visibilité, etc. Il y a des gens qui ont beaucoup moins de visibilité, qui pourtant aussi mènent leur barque. Et c'est valable un peu partout, c'est valable sur YouTube, c'est valable dans le podcast, c'est valable dans plein d'endroits. Prenons par exemple l'exemple de Kilomètre 42, il y a plein de gens qui me diraient que Kilomètre 42, avec l'audience qu'il y a, c'est pas possible de gagner de l'argent avec, c'est pas possible d'avoir des sponsors dessus, etc. Et pourtant, je peux vous garantir qu'en ce moment, il y a un nouveau sponsoring et que dans l'année, il était sponsorisé par Nike, par Adidas. Là, en ce moment, c'est Babel. Mais j'ai regardé aussi l'autre jour, il y avait Asics, il y a Apple, etc. qui mettent de l'argent sur le podcast. Donc, pourtant, hein, officiellement, d'après les gros chiffres, d'après ceux qui veulent vous vendre des gros chiffres, qui veulent dire qu'il faut absolument faire de la pub, etc., c'est pas possible. Et ce que je voudrais vous dire, la conclusion de tout ça, en fait, j'aurais pu mettre d'autres livres, Compagnie aux Fouanes et d'autres, c'est que ces livres aussi, ils amènent, je trouve, une autre vision des choses, et une vision qui est plus... Je voudrais reprendre un terme, j'ai pas aimé Matt Davella la semaine dernière, mais un peu slow, un peu, finalement, de se dire qu'on n'est pas obligé d'être dans la course aux gros chiffres, mais qu'en fait il faut être dans la recherche de la vie créative, c'est la recherche finalement de l'équilibre. De l'équilibre entre créer des choses, développer des projets, vivre, est-ce qu'on veut en vivre ou pas totalement, ça c'est une question qui est propre à chacun. On peut en vivre comme étant une activité secondaire, on peut en faire une activité secondaire qui va gonfler petit à petit, on peut avoir plein de stratégies, mais qu'en fait on n'est pas obligé de le faire. Le succès d'un jour à l'autre n'existe pas et qu'il faut du temps. Et par exemple, moi ce que je dis beaucoup, hein, c'est que c'est pas parce que si vous lancez un podcast maintenant, c'est pas dans 3 mois que vous allez en vivre, c'est pas dans 6 mois, c'est peut-être dans 2 ans. Et qu'en fait, c'est vraiment une course de fond et qu'il faut se donner du temps. Et que probablement, le projet, on aimerait bien avoir des résultats rapides, mais que le résultat, en fait, c'est quelque chose qui va prendre plus de temps, qui va demander de surmonter cette peur de l'échec, qui va demander de trouver finalement le projet qui nous permet vraiment de se réaliser, qui va demander de créer une communauté, qui va demander aussi de se dire qu'on est bien, que finalement ça nous botte de se lever le matin pour travailler sur ces contenus-là, ou de se coucher peut-être le tard le soir, peut-être pour travailler dessus, et que par les habitudes créatives, les attitudes qu'on a, etc., petit à petit on arrive à sculpter notre vie créative. Voilà, c'est ma conclusion de cet épisode-là. Vous avez compris, dans cette dernière phrase, je vous ai remis les pourquoi ces 5 livres sont liés entre eux. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous en avez d'autres à me recommander. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.